nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Comment fabrique-t-on une crise sanitaire? Voilà la question qui pourrait être posée à un concours de scénaristes de science-fiction où le premier opterait pour un film où les ondes de téléphone portable provoqueraient une régression mentale chez l'être humain. Un autre scénariste travaillerait sur les effets des plantes génétiquement modifiées où des mutations physiques seraient à craindre pour ceux qui les consomment. Et un autre encore surferait sur l'actualité du moment et décréterait une épidémie mortelle de grippe A pour quiconque s'aventure dans les dédales des couloirs du métro parisien. Rien à redire dans cet exercice d'imagination, sauf que cette question n'est pas posée par un professeur de cinéma, mais par un médecin, et en l'occurrence le professeur André Orango, membre de l'Académie nationale de médecine. André Orango, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir dans notre studio à Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital Salpêtrière à Paris et membre du Haut Conseil de la Santé publique et de l'Académie de médecine. Décidément, vous cumulez les provocations, si j'ose dire. Alors on sent bien dans cette question, comment fabrique-t-on une crise sanitaire? Un agacement, peut-être même une inquiétude. Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, pour que vous preniez la parole sur ce thème?
Oh, le vase est plein depuis longtemps. Hein. Les crises sanitaires dont j'ai voulu parler sont des annonces de catastrophes sanitaires qui n'ont en réalité jamais eu lieu et qui ont donné lieu à des flambées médiatiques. Alors ce ne serait qu'amusant, comme ce que vous disiez au début de l'émission, si ça n'avait en définitive des conséquences réellement graves pour à la fois la politique de santé publique, pour la politique de santé environnementale et pour certaines dérives qui ont pu avoir des conséquences catastrophiques.
En parlant de crise sanitaire, vous parlez de crise sanitaire virtuelle. On va faire un petit jeu, si vous le voulez bien. On va rester ludique sur vrai ou faux, vraie crise sanitaire ou fausse crise sanitaire. Commençons. C'est l'actualité, nous sommes obligés d'en parler. La fameuse grippe A, où les campagnes de vaccination se poursuivent. La grippe A est-elle une vraie ou une fausse crise sanitaire, professeur Orango, selon vous?
Selon moi, qui ne suis pas un spécialiste de ces questions, il s'agit d'une vraie crise sanitaire. C'est une grippe qui peut faire beaucoup de morts, comme la grippe saisonnière. Et c'est surtout une grippe à laquelle son caractère chronologique fait que l'on n'est pas préparé comme on l'est chaque année à la grippe saisonnière. Donc il y avait toute une logistique à mettre en œuvre qui devait être d'autant plus rigoureuse que l'on ignorait et que l'on ignore encore assez largement la véritable dangerosité de cette pandémie. Et donc, je pense que les mesures qui ont été prises et qui peuvent paraître excessives pourront se révéler extrêmement utiles en réalité.
Mais vous n'avez pas l'impression que, par exemple, je me fais l'avocat du diable, hein, n'avez-vous pas l'impression que, par exemple, le gouvernement prend un peu le pas sur l'avis des médecins concernant les mesures prises pour cette fameuse grippe A?
Alors il y a deux choses, hein. Il y a le fait de prendre cette pandémie très au sérieux, de préparer les pouvoirs publics, de préparer toutes les organisations qui sont indispensables au fonctionnement de la nation, comme la banque, l'électricité, l'eau, l'alimentation dans les grands magasins, etc. Et puis il y a la campagne de vaccination proprement dite, dont on peut dire qu'elle n'a pas vraiment fait dans la simplicité, et mon avis personnel aurait été qu'il valait mieux impliquer dès le départ les médecins généralistes qui étaient à la fois des auxiliaires indispensables pour le fait de vacciner et deuxièmement des relais d'opinion, alors que le fait de les avoir laissés un peu sur la touche les a probablement fortement démobilisés dans cette affaire.
Venons-en au téléphone portable. Alors le téléphone portable, on en a parlé il y a quelques temps, des ondes néfastes, d'éviter de téléphoner trop longtemps parce que les ondes pouvaient provoquer un échauffement. On demande aux femmes enceintes d'éviter de téléphoner avec un téléphone portable. Alors, vrai ou faux, le téléphone portable est-il une crise sanitaire, selon vous ?
Le téléphone portable, selon moi, n'est pas une crise sanitaire. Pour éviter toute ambiguïté, je tiens à préciser que je fais partie du conseil scientifique de Bouygues Télécom, mais que je ne suis pas rémunéré pour cette activité. C'est une activité bénévole et qui n'influence pas ce que je vais vous dire. Le téléphone portable n'est pas une crise sanitaire. On n'a pas mis en évidence d'augmentation d'une pathologie déterminée qu'on aurait pu rattacher au téléphone portable. On n'a pas vu une explosion des tumeurs du cerveau, alors qu'il y a quand même plusieurs milliards d'utilisateurs du téléphone portable dans le monde et qu'il y en a au moins plusieurs centaines de millions depuis plus de 10 ans. Donc c'est en ce sens que ce n'est pas une véritable crise sanitaire. Ce que vous dites que l'on craint, à savoir un échauffement, etc., je dois dire que ce qui alerte sur les dangers supposés du portable parle de choses beaucoup plus graves que ça. On parle de maladie d'Alzheimer, on parle de cancer, on parle de neurinome de l'acoustique, etc. etc. Donc il ne s'agit pas du tout de petits désagréments du genre échauffement. Bon, alors fort heureusement, des institutions internationales comme l'OMS, comme le SCENIR, qui est le Conseil scientifique de la Communauté européenne, ou comme très récemment l'AFCET en France, se sont prononcées absolument sans ambiguïté sur la question. C'est-à-dire qu'il y a une innocuité des antennes relais elles-mêmes et il y a une certitude d'innocuité des portables jusqu'à 10 ans d'utilisation et ensuite un certain nombre d'incertitudes jusqu'à ce que peut-être elles soient levées par la publication d'une étude en cours qui devait être déjà publiée depuis plusieurs années, qui s'appelle l'étude Interphone et qui pose des problèmes méthodologiques épidémiologiques. Donc voilà où on en est.
Est-ce que le principe de précaution, justement, permet d'éviter ce genre de crise sanitaire? Et du coup, par exemple, vous le disiez à l'instant, on ne peut pas parler de crise sanitaire pour le téléphone portable n'ayant pas d'études à ce sujet. Est-ce que le principe de précaution permet d'éviter ces crises? Ou est-ce qu'au contraire, elles agitent le drapeau rouge et provoquent parfois des angoisses et des peurs?
Le principe de précaution a mis la touche finale au processus par lequel on fabrique une crise sanitaire. Pour fabriquer une crise sanitaire, il faut tout d'abord que vous établissiez ou créiez de toutes pièces une incertitude scientifique, quitte à renvoyer dos à dos des gens dont la légitimité scientifique n'a absolument rien à voir. Vous devez convaincre le public qu'il y a une incertitude. Cette incertitude scientifique, vous la présentez comme majeure, comme lourde de menaces terrifiantes, et si vous arrivez à dire que l'expertise institutionnelle essaye de cacher les choses, ce sera encore mieux. Deuxièmement, ayant une incertitude, vous mettez les scientifiques en demeure de prouver qu'il n'y a pas de risque et de prouver qu'on n'aura jamais de risque établi dans le futur.
De la même manière qu'une personne doit prouver son innocence quand elle est accusée de quelque chose.
Oui, c'est ça. On peut dire ça. C'est un renversement de la charge de la preuve. On demande de prouver qu'il n'y a pas de risque. Alors, quand vous y réfléchissez bien, vous seriez même incapable de prouver que le Père Noël n'existe pas. Et là, on vous demande de prouver qu'un risque n'existe pas. Aucun scientifique ne peut raisonnablement prouver ça. C'est absolument impossible. Vous pouvez tout au plus prouver que le risque se trouve dans une zone où il peut être considéré comme négligeable. Vous ne pouvez pas démontrer qu'un risque est nul. À partir de là, bien ceux qui ont fabriqué la crise sanitaire expliquent que de toute façon les scientifiques sont incapables de répondre à la question la plus importante, que l'incertitude demeure, et c'est à ce moment-là qu'intervient le principe de précaution, c'est-à-dire que on demande alors au pouvoir public d'appliquer le principe de précaution dans sa version, je dirais, quasiment intégriste, hein, c'est-à-dire arracher pour les OGM, démonter quand il s'agit des antennes, arrêter quand il s'agit des vaccinations contre l'hépatite dans les écoles. Donc vous voyez que le principe de précaution va jouer un rôle très important dans ces crises. D'autre part, le principe de précaution donne le même statut à un risque hypothétique et à un risque avéré. Et donc, il, si vous voulez, il entraîne une espèce de confusion dans l'appréciation des risques qui va se reporter sur la gestion de ces risques. Et c'est en ce sens qu'il joue, à mon avis, un rôle clé dans ces crises sanitaires virtuelles et que, comme vous le dites très bien, il est sans arrêt agité au nom du principe de précaution, on doit faire ceci, etc., etc. Le principe de précaution joue actuellement un petit peu le même rôle que le « oh my God » des Américains. Donc, oh là là, le principe de précaution. J'ai même vu, par exemple, le maire d'une petite ville de l'Est vider l'étang de sa commune parce qu'on lui avait dit qu'il y avait un crocodile dans l'étang et expliquer, vous comprenez bien, à cause du principe de précaution, je ne pouvais pas faire autrement que de vider l'étang.
Est-ce que l'on s'intéresse maintenant plus aux peurs de la population qu'aux grands fléaux ? Je pose la question, je crois que je connais votre réponse.
Il y a heureusement un certain nombre de grands fléaux dont on se préoccupe, peut-être pas assez, hein, mais dont on ne peut pas dire qu'on les laisse complètement orphelins. En revanche, il y a une attention qui est portée à certaines peurs et lesquelles ne le justifieraient pas. Et la peur, en plus, est maintenant valorisée. Hein. C'est Luc Ferry qui disait que la peur n'est plus quelque chose de honteux, quelque chose d'infantile, mais que c'est devenu le premier pas de la sagesse, ce qui est quand même pour une nation quelque chose de grave.
Alors, poursuivons sur notre petit jeu vrai ou faux. Donc, on a parlé de téléphone portable, de la grippe H1N1. On a aussi parlé il y a quelque temps, et la polémique est demeure ancienne, mais elle est toujours là, sur le risque de vaccination, restons sur la vaccination de l'hépatite B. Alors là aussi, est-ce que c'est une crise sanitaire, une vraie crise sanitaire, selon vous ?
À l'origine de ces crises sanitaires virtuelles, on trouve souvent des études épidémiologiques qui ont été surinterprétées. Et dans l'état d'esprit général, quand une étude épidémiologique a des biais, quand une étude épidémiologique a fait des dizaines et des dizaines de tests statistiques, parmi lesquels il n'est pas du tout étonnant d'en trouver un positif, ce serait même l'inverse qui statistiquement serait très particulier, eh bien ces erreurs méthodologiques sont tout de suite pardonnées à partir du moment où l'étude vous montre un risque. Donc elle est considérée comme étant un élément important, un important du dossier. Et l'étude épidémiologique qui avait conclu à un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques fait partie de ces études surinterprétées. Et il y a eu une deuxième étude qui était également surinterprétée, qui, elle, faisait appel à un nombre considérable de tests statistiques, ce qui fait qu'il aurait vraiment fallu que les auteurs n'aient pas de chance pour qu'il n'y ait pas un par hasard positif. Donc cette sacralisation de l'étude épidémiologique et du risque a conduit à un arrêt de la vaccination dans les établissements scolaires. Le résultat est dramatique, c'est-à-dire que la couverture vaccinale contre l'hépatite B en France est beaucoup plus faible que dans les pays de niveau socio-économique comparable. Cela va se traduire par des centaines de séquences hépatite B, cirrhose post-hépatitique, cancer du foie, décès. Donc cette absence de vaccination va faire des centaines de morts.
De la même manière, en préparant cette émission, vous parliez du DTT. Qui, justement,
alors, le DTT,
avait...
c'est une histoire beaucoup plus ancienne, mais qui est encore plus grave par ses implications. Le DTT a été arrêté à la suite d'une étude épidémiologique qui l'associait à la possibilité d'avoir des cancers du sein. Cette étude s'est révélée inexacte au fur et à mesure que d'autres études ont été faites et donc on ne retient plus cette hypothèse. Mais quand cette étude est parue, le DTT a été interdit, ce qui n'a pas été un vrai problème pour les pays riches qui pouvaient financer des insecticides de substitution plus coûteux, mais ça a été dramatique pour les pays en voie de développement qui n'ont pas pu se payer des insecticides qui étaient plus onéreux que le DTT. Et alors que le paludisme était en voie de très très nette régression et qu'on pouvait espérer sa disparition, le paludisme est reparti à la hausse. Là, ce n'est pas des centaines, c'est des millions de morts que cet excès de confiance, cet excès de précaution a entraîné. Les excès de précaution ne sont pas nécessairement des choses au pire inutiles. Ça peut être au pire des choses dramatiques.
Alors, il faut être également prudent dans le principe de précaution, même si à l'époque, ce n'était peut-être pas le terme employé, le principe de précaution. Alors, revenons à cette question. Comment fabrique-t-on une crise sanitaire ? Vous parliez d'inquiétude. Que faudrait-il faire pour qu'on n'ait pas cette impression de crise sanitaire à tout bout de champ, alors, selon vous ? Que oui. Les médias s'orientent plus vers les médecins plutôt que vers des personnes qui veulent vendre des livres, par exemple ? Nous ne citerons pas de nom.
Je pense que vous posez une bonne question, à savoir que les fausses crises sanitaires risquent de masquer les vraies, parce que les vraies crises sanitaires, ça existe.
Et là, c'est le public, pour le coup.
Oui, plutôt, disons, troubler le travail de ceux qui ont en charge la santé publique, hein, qui sont obligés de s'occuper de tas de crises qui n'ont pas vraiment de justification et n'ont peut-être ce qui diminue le temps et l'énergie qu'on a consacré à des vraies crises. On n'a pas de vrais conseils à donner pour éviter cela. Moi, je vois quand même un certain nombre de pistes. Une piste, c'est de labelliser les études épidémiologiques. L'épidémiologie est une science indispensable en santé publique. Elle a eu des immenses succès et il y a quand même un certain nombre d'études qui manifestement ne tiennent pas la route. Et donc, il faudrait que certaines institutions puissent donner une appréciation sur les études, même quand elles ont été publiées. On voit publier des études qui, normalement, ne l'auraient pas dû l'être compte tenu de leurs carences méthodologiques. La deuxième piste, c'est de bien faire la différence entre ce qu'est l'estimation d'un risque. C'est une démarche scientifique, c'est une démarche d'expert qui nécessite beaucoup de connaissances et qui nécessite d'être fait collectivement. Et de bien séparer donc cette estimation des risques de la gestion politique des risques. La gestion des risques, c'est quelque chose qui concerne toute la société dans laquelle les associations ont tout leur rôle. Je ne voudrais pas dire là aussi, mais là, les associations ont tout leur rôle. La société a son rôle et il faut que chacun prenne ses responsabilités. On ne doit pas faire endosser à des scientifiques des décisions qui sont de nature politique.
Vous faites de la psychologie politique, en fait, autour de cette émission sur comment fabrique-t-on une crise sanitaire.
Je fais de l'hygiène politique, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
On comprend bien aussi la démarche d'un gouvernement, d'un État, qui est de rassurer aussi une population, quitte à peut-être en faire beaucoup, mais pour contenir aussi une population, non ?
Oui, bien sûr, il faut rassurer la population, mais les politiques doivent se fonder sur les expertises collectives, mais ensuite leurs décisions sont de nature politique. Ils doivent les expliquer et ils doivent les assumer en tant que décisions politiques. Ils ne doivent pas, je pense que c'est pas éthique, de s'abriter derrière un avis scientifique qui aurait été dénaturé dans son expression et dans sa réalité.
Alors tout ce que vous aviez cité précédemment sur la nécessité de prendre le temps, de faire des recherches, de faire des études épidémiologiques, tout ça demande du temps. Mais nous sommes dans une société, malheureusement, où on prend peut-être moins le temps de faire les choses. On pose des questions, on veut des réponses rapides. Et quand on veut un rapport, c'est pour, pas forcément l'année d'après, mais la semaine qui suit.
Plutôt à l'entière, oui. Mais...
Donc on comprend bien aussi la nécessité d'être toujours plus rapide, quitte peut-être à faire des erreurs et revenir ensuite en arrière.
Alors, tout d'abord, quand on fait des erreurs, on ne revient jamais en arrière. Hein. Le DTT n'a pas été réautorisé. Hein. Donc, les précautions, on a l'impression qu'elles sont toujours à sens unique. Une fois qu'elles ont été décidées, on ne revient pas en arrière. Le problème du temps dont vous parlez est essentiel. Hein. Si des études épidémiologiques n'arrivent pas à répondre aux questions qu'on pose, c'est parce que, faute de temps, on s'oriente vers des études rétrospectives et qu'on est obligé d'aller chercher dans le passé si telle personne a été exposée à telle ou telle chose, je ne sais pas, les pesticides ou le téléphone portable ou des biberons au biphénol. Donc, ces renseignements que vous avez rétrospectivement sont entachés d'une grande incertitude, sont entachés de biais de mémoire, parce que les gens malades ont davantage tendance à se rappeler les expositions que les gens bien portants, qui leur servent de témoins. Et donc, on n'a pas de bonnes, vraiment de très très bonnes études comme cela si on n'arrive pas à avoir des index très objectifs qui permettent rétrospectivement d'évaluer cette exposition. Mais vous faites le travail rapidement. Les autres études, qui sont des études dites de cohorte, dans lesquelles on suit une population en attendant que les maladies arrivent et où on relève année par année toutes les expositions, sont beaucoup plus convaincantes, mais elles durent beaucoup plus longtemps. Cela dit, il faut savoir ce que l'on veut. Il y a des questions qui sont suffisamment importantes pour faire une étude épidémiologique de façon à aborder le risque. Une étude cas témoin, d'accord. Et puis, alors, il faut lancer en parallèle des études de cohorte parce que sinon, on n'aura jamais la véritable réponse à la question. Et on ne peut pas avoir cette réponse de façon fiable dans délai bref. Et souvent, on voit que des gens font semblant d'apporter une réponse alors que c'est en réalité pas une réponse de qualité et de fiabilité suffisante par rapport aux enjeux.
Professeur Orango, pour terminer cette émission, une dernière question auquel j'espère vous pourrez me répondre. Sortons un peu des frontières françaises. On a bien compris comment on fabrique une crise sanitaire en France. Est-ce que les démarches sont semblables chez nos voisins européens ou même aux États-Unis? Est-ce qu'on a tout de suite cette angoisse d'une crise sanitaire? Est-ce que dès qu'il y a une maladie qui pointe le bout de son nez ou dès qu'il y a quelque chose comme ça qui pointe le bout de son nez, comme le téléphone portable, on a les mêmes réactions? Est-ce que c'est une réaction franco-française?
Oui, on voit des crises sanitaires qui sont un petit peu dans le même genre, mais leur dénouement n'est pas forcément identique. Certains pays, la plupart de ceux qui ont adopté le principe de précaution, ne l'ont pas fait comme dans la Constitution française, c'est-à-dire sans aucun garde-fou. Et je pense qu'il y aurait un véritable travail parlementaire à faire sur l'encadrement du principe de précaution qui actuellement peut être interprété d'une manière complètement maximaliste puisque ça ne fait référence à aucun rapport coût-bénéfice, ça ne fait pas référence au risque de faire les choses et au risque de ne pas les faire, etc. Donc déjà, nos voisins qui ont adopté le principe de précaution ne l'ont pas pris sous cette forme sans garde-fou. La deuxième chose, c'est que souvent, les pays évitent de se trouver dans ce que Stephen Breyer a appelé un cercle vicieux des normes, dans lesquels, sous la pression de l'opinion, on arrive à diminuer les normes de n'importe quel toxique, polluant, etc., sans qu'il y ait de justification scientifique. Et cet abaissement des normes, au lieu de rassurer la population, ce qui est le but évidemment des autorités, ne fait que l'inquiéter parce que l'opinion se dit si on a abaissé les normes, c'est qu'il y avait bien des raisons, donc on nous avait caché quelque chose. Et puis la nouvelle norme ne devient pas un seuil de sécurité absolue, mais devient un nouveau seuil de dangerosité. Et donc vous vous êtes entraîné dans un nouveau tour de cycle avec inquiétude, etc., etc. Et donc il y a des pays qui ne rentrent pas dans ce genre de cycle et je crois que c'est une grande sagesse qu'il faudrait peut-être partager.
Merci professeur Orango. Je redis donc pour nos auditeurs que vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et membre du Haut Conseil de la Santé publique et de l'Académie de médecine. Voilà, merci beaucoup et puis je l'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci madame.